d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM dans l'émission des chômeurs et précaires, mode d'emploi. Ce soir, c'est avec l'équipe donc d'AC, Agir Ensemble contre le chômage, avec Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Christophe aussi.
Bonsoir.
J'ai le micro et également donc toujours Claude à la technique, comme depuis le début de cette émission historique. Voilà. Donc nous parlerons bien sûr ce soir de quelque chose qui nous donne, qui nous rassure quelque part, parce que nous avons vécu, enfin, nos parents et grands-parents ont vécu il y a 50 ans les événements de mai 68. Des événements qui pourraient éventuellement se reproduire aujourd'hui, ce serait bien. Et nous allons, grâce à ça, pouvoir parler d'histoire du travail, du salariat, et également de mai 68, bien sûr, de l'avant 68, où effectivement tout ce qui concernait le travail était un peu compliqué pour les travailleurs, hein, pour le coup, et ce nouveau monde qui est apparu après 68. Grâce à ces grands événements de manifestations et puis de combats de rue, etc. Voilà. Donc, une grosse émission en perspective. Voilà, donc l'émission reprend. Donc, j'aurais comme vous commencer par vous demander un petit peu à tous les deux, un petit peu ce que vous avez comme idée sur ces événements qui ont, il y a 50 ans, ont marqué l'histoire de la France, en fait, pour le coup. Ce changement catégorique, hein, on va dire.
Non, moi je suis comme tous les Français moyens, enfin d'une certaine génération, c'est-à-dire que c'est nos parents. Mais 68, c'est nos parents qui nous bassinent avec ça et qui nous ont rebassinés. Et donc on peut le comprendre parce que comme on a l'image de mai 68 d'étudiants qui sèchent les cours, tout ça, bon bref c'est génial pour eux, mais mai 68 c'est avant tout c'est aussi la première, une des plus grandes grèves ouvrières de France, même la plus grande en fait en numériquement, et effectivement c'est un changement de, enfin comme on va le voir dans les documentaires qu'on a présentés, là, c'est un changement de culturel au sein des entreprises aussi. Il y a un avant et un après mai 68, pas seulement en termes d'éducation, mais en termes d'entreprise.
Christophe, tu as une idée sur un petit peu la chose?
Je peux en parler, puisque mes mentors et mes enseignants, quand j'étais dans les lycées expérimentaux, étaient des leaders de contestataires, mais aussi de la pensée, hein. Avec des noms de code de mai 68.
Oui,
ils ont fait partie des courants un peu anarchistes pour certains, dans certaines revenues spontanées étudiantes, entre autres. Et puis, un de mes profs, ça a été qui? Ça a été Gabriel Colmendi, quoi.
D'accord. Alors Ludo, tu peux nous présenter un peu le documentaire qui va...
Oui, alors c'est un documentaire qui était sorti en 98, je crois, et qui était réalisé par Gilles Balbastre, que les gens connaissent, du monde diplomatique, entre autres, et qui s'appelait Une histoire du chômage.
Très bien.
Et donc qui retraçait effectivement l'histoire du chômage en commençant à une époque où il y avait très peu de chômage, 500 000 chômeurs.
C'était le plein emploi, effectivement.
Alors presque, mais il y avait quand même déjà 500 000 chômeurs, c'était en 67.
Ouais.
Voilà.
Très bien, merci.
Lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir en mai 1981, le chômage est au cœur du débat politique. Les années 70 ont en effet été le témoin du passage chaotique d'un monde marqué par une croissance forte et par le plein emploi à un autre monde rongé par la crise et la montée du chômage. La victoire de la gauche constitue alors un réel espoir pour une large partie du pays, sonné par quelques 2 millions de demandeurs d'emploi. François Mitterrand et ses alliés réfléchissent depuis une dizaine d'années à des solutions alternatives basées sur le postulat que c'est avant tout le capitalisme qui est en crise.
Dans le fond, le programme de la gauche était un programme de lutte des classes, anticapitaliste. Et donc c'était un programme qui spéculait sur le fait que la collectivité nationale plus l'État allaient non seulement modifier le capitalisme et ses ressorts et entraîner la France dans une croissance harmonieuse.
Jacques Attali, conseiller de François Mitterrand.
En matière de croissance et de chômage, l'idée est que l'essentiel du retour de l'emploi se fera par deux leviers. Le premier, c'est la croissance, et le second, c'est la politique industrielle.
À côté de la politique économique de rupture symbolisée par les nationalisations, les premières mesures du gouvernement de Pierre Mauroy, hausse du SMIC et des bas salaires, revalorisation des prestations sociales, visent à augmenter le pouvoir d'achat des classes populaires et par conséquent à relancer la croissance. Le partage du travail amorcé par la semaine de 39 heures et la retraite à 60 ans vient à la fois compléter ce dispositif de lutte contre le chômage et satisfaire le peuple de gauche.
Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Recherche et de l'Industrie.
Il fallait que le peuple vive mieux et un peu plus de temps à lui, que les travailleurs âgés puissent partir à la retraite. Alors en même temps, effectivement, ça correspondait à l'idée qu'on allait libérer des places pour les jeunes. Il y a eu incontestablement cette idée-là, mais fondamentalement, c'était les engagements que la gauche avait pris qu'elle remplissait vis-à-vis de son électorat. Il était bien temps de respirer, de souffler, de prendre un peu de bon temps.
Au printemps de l'année 1982, la relance française vient buter contre la politique de rigueur mise en place par les autres pays européens. Les clignotants de l'économie demeurent au rouge. L'inflation est au-dessus de 13%, le commerce extérieur est largement déficitaire. C'est dans ce contexte que le ministre de l'économie et des finances tire le signal d'alarme lors de son passage dans la toute nouvelle émission politique d'Antenne 2 et réclame le premier une autre politique. Cela fait à peine un an que la gauche est arrivée au pouvoir.
Les mois qui viennent seront difficiles.
Et oui, nous reprenons carrément la parole parce qu'en fait, il y a une petite erreur dans le montage. Nous n'avons pas passé le bon son. C'est des choses qui arrivent. Oui. Évidemment, voilà. C'est ça la radio militante bénévole. Des fois, on fait des erreurs. Hein. On n'est pas payé pour ça. Mais voilà. Ludo, tu voulais.
Donc là, c'est la deuxième partie qu'on entend, en fait, ouais. Du documentaire qui parle effectivement des années 80. Oui. Et elle est précédée de toute la première partie qui commence en 67 et qui commence par la situation économique en 67, notamment par rapport au chômage, hein, donc et par les débuts de la crise de la sidérurgie, du textile, enfin, dans les régions du Nord, et par la vision de Georges Pompidou juste avant 68, donc de l'avenir.
D'accord.
Et donc pour lui, l'avenir, c'est l'ouverture, c'est l'Europe en fait, hein, et c'est donc l'ouverture des frontières et la concurrence intra-européenne qui va, selon lui, risque de provoquer une augmentation du chômage. Et donc, c'est une interview qui est mémorable parce que finalement, il dit, mais au fond.
C'est ce qui va se produire.
Oui, d'abord, c'est ce qui va se produire. Oui, mais lui, il pense quand le documentaire commence, il dit à peu près, grosso modo, à 500 000 chômeurs ou à 1 million de chômeurs, c'est la révolution. Voilà. Mais lui. Ce qui est c'est mémorable parce qu'il finit par dire.
C'est une formule célèbre d'ailleurs.
C'est une formule célèbre et l'objectif du libéralisme, c'est finalement d'être tout le temps en concurrence, une concurrence de tous, parce que s'il n'y a pas cette finalité, je n'en vois pas d'autre. L'objectif du gouvernement n'est pas de créer des protections derrière lesquelles les chefs d'entreprise français ou les travailleurs français pourraient se réfugier, et ce n'est pas de les encourager à la paresse. Et donc, à partir de maintenant, vous devez être tout le temps en permanence
en concurrence. Voilà, tous contre tous.
Mais c'est vrai qu'il est lucide sur la montée du chômage, presque inéluctable, puis, selon lui.
Il pose les bases d'une politique libérale qui va être la conséquence de ce qu'on vit depuis 40 ans.
Absolument, oui. Mais c'est bon, parce que souvent, on fait remonter la crise au néolibéralisme, c'est-à-dire dans les années 80, la dérégulation des années réganiennes, c'est vrai. Mais la construction européenne est quand même une construction qui a été conçue effectivement pour les entreprises et dans un objectif d'échange commerciaux. Hein. Donc, ça vient de loin. Et donc, c'était assez intéressant. C'est intéressant puisque on voit lentement mai 68 qui effectivement passe par là et effectivement donc le pouvoir politique est pris de court et la réaction, la première réaction, c'est de se raidir et puis finalement Alors, sous l'influence de Pompidou, enfin, on ne sait pas trop hein, sous quelle influence ou quoi que ce soit, mais il y a les accords de Grenelle. Et donc, les accords de Grenelle, les concessions que fait le gouvernement au mouvement ouvrier sont considérables. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 10% du SMIG, la représentation syndicale, et des mesures de pouvoir d'achat sans précédent. Donc, voilà. Et derrière, elle relance la croissance économique française jusqu'au premier choc pétrolier, en fait.
79, je crois, voilà. Le premier choc.
74,
pardon. Ouais.
73. Okay. Et du coup, et on voit Balladur dire, eh bien, c'est vrai, nous nous sommes trompés. C'était une erreur d'estimer que, en n'accordant pas du pouvoir d'achat aux ouvriers, on n'encouragerait pas la croissance. Et voilà. Et donc, ce qui est aussi intéressant par rapport à mai 68, hein, mais on va peut-être l'écouter dans le deuxième documentaire, on va peut-être.
Oui, ok, on a écouté. Très bien. Merci, Ludo.
Des 30 glorieuses. Petit à petit, un équilibre différent va se mettre en place, fondé sur de nouveaux raisonnements, la logique keynésienne. Des droits sociaux récemment acquis, santé, retraite, alimentent en fait la machine économique. Et les salaires. Mais ce sont aussi des revenus à dépenser. Et puis, il faut tout reconstruire. Les besoins explosent et la croissance suit. 5% par an et davantage pendant plus de 20 ans. L'automatisation se généralise. Tout a l'air plus facile. Pas si simple. Les salariés commencent à aspirer à autre chose.
Nous, les filles, n'avaient pas le droit de venir en pantalon. Les seules qui étaient autorisées, c'était l'hiver, celles qui habitaient loin et qui devaient attendre le train sur le quai de la gare. Et elles arrivaient en pantalon. Elles se changeaient au vestiaire pour mettre leur robe. Voilà. Elles n'avaient pas le droit de mettre le pied dans le service en pantalon. Ça, c'était très strict. Hein, ça. Et ça, ça pouvait être une cause de sanction. Ouais. Hein. Et dans les... Bien plus important qu'une petite faute professionnelle.
Il fallait être ou tout en noir, ou noir et chemisier blanc. Bon, les chaussures tenues derrière, n'est-ce pas?
Ah oui, pas des sabates,
pas comme les disait. Moi, un jour, je vous ai dit, je ne vais pas être bien coiffée, je mets un serre-tête velours. Il m'a dit, c'est pas Pâques. Oh, ben, comme ça, hein.
On avait ce qu'on appelait, ça s'appelait les cages, où ils étaient dans des trucs en verre. Et tous les gens faisaient la queue pour porter les vœux au chef de service.
C'était vitré parce qu'il fallait qu'ils surveillent.
Ah oui, parce que c'est ça, oui. Parce qu'il fallait qu'ils aient un œil sur
de côté, partout. Et si c'était de très grandes salles, même quelquefois, leur bureau était sur une estrade.
Voilà.
Pour avoir une vue plus importante sur le service.
Et ça, on voyait beaucoup ça dans les ateliers mécanographiques où il n'y avait que des femmes. Elles étaient 50 ou 60 ou 100 dans le service, alignées, les machines alignées, et l'estrade avec la chef de service et ses deux adjointes qui regardaient sur une estrade.
Ça n'a jamais été une maîtrise qui nous apprenait quelque chose. C'était une maîtrise pour
répréhensif.
Qui, 5 minutes, si on allait trop souvent aux toilettes, c'était pas bon. Le casse-croûte, c'était 20 minutes, c'était pas 22 minutes. Et je me rappelle qu'il y avait une série de pièces où il y avait un petit problème. Donc l'ingénieur était venu. Et ils étaient à peu près 10 à côté de la machine. Et puis on avait dû couper des millimètres. Et l'ingénieur, il dit, il faut qu'il coupe encore un millimètre. Mais au lieu de me dire à moi, couper un millimètre ou couper un millimètre, il le dit au suivant. Et les 10 personnes, ça a dégradé. Que le dernier, le petit chef d'équipe, m'a dit à moi, coupe un millimètre. Et moi, j'ai dit à la machine, allez, coupe un millimètre. Vous voyez, on ne vous adressait pas la parole.
En mai 68, les étudiants explosent. Après les étudiants, c'est le monde du travail qui débraye et revendique. Avec plus de 8 millions de salariés en grève, la France est totalement immobilisée. Les étudiants explosent. Après les étudiants, c'est le monde du travail qui débraye et revendique. Avec plus de 8 millions de salariés en grève, la France est totalement immobilisée. On est à deux doigts de la révolution.
Ces chefs
Des entreprises qui assument les trois quarts de l'activité productrice nationale appellent votre attention sur de graves dangers. La paralysie actuelle compromet les exportations, l'équipement des usines. Pour l'avenir, c'est votre niveau de vie, ce sont vos emplois qui seraient en cause. Il faut restaurer les conditions d'un travail ordonné sous l'autorité de la direction et des cadres de tout niveau.
Mais là, la hiérarchie a changé. Tout a changé, la mentalité des gens a changé. On a eu une génération qui voulait s'exprimer, qui ne voulait pas subir, qui voulait faire voir, bon, ben, je suis peut-être à manœuvre pour le travail parce que je n'ai pas eu la formation, mais j'ai quand même une intelligence. Dans le milieu ouvrier, on n'était plus considéré comme rien, qu'on n'avait rien à dire, on pouvait s'exprimer.
On ne s'est pas mis en grève, mais tous les jours, quand on allait travailler, on était sur place et on discutait des événements. Alors on regardait ce qui se passait ici, à droite, à gauche, les manifestations, les voitures, le Charletti, tout ça créait discussion. Tout le monde n'était pas d'accord, mais il y avait une discussion. Donc pour moi, ce qui est arrivé, c'est une première grande prise de conscience de vivre chez IBM en tant que salarié.
Le propre de mai 68, à mon avis, ça a plutôt été quelque chose comme une, je dirais pas une révolution, mais enfin, quand même un bouleversement assez profond dans l'ordre culturel.
Un bouleversement accompagné aussi d'avancées bien concrètes, obtenues après plus de 30 heures de négociations acharnées.
Le gouvernement, de son côté, ne peut manquer de souligner les exceptionnels sacrifices financiers et budgétaires que ces décisions entraînent et les avantages sociaux tout à fait exceptionnels aussi qui sont accordés en une seule fois à tous les travailleurs en lutte. C'est le caractère extraordinairement sérieux de la crise actuelle qui seul a permis d'aboutir à des concessions aussi importantes.
Des concessions, dit Georges Pompidou avec difficulté. Il est vrai qu'elles sont de taille. Les salaires grimpent de 10%, le SMIC de 25%, et les syndicats sont officiellement reconnus dans les entreprises.
Travailleurs du Ginor, arrêtez-vous 5 minutes.
Déjà sous la 4e République, il existait dans certaines entreprises, dans certains secteurs, des syndicats dans l'entreprise. Mais tout ça était hors la loi. Ce qui s'est passé en 68, c'est qu'on a généralisé des pratiques qui existaient à certains endroits. On a reconnu le droit syndical dans l'entreprise, les délégués syndicaux, les sections syndicales d'entreprise, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire un local, le droit de distribuer des tracts.
L'organisation syndicale existe aujourd'hui à l'intérieur de l'entreprise. Elle a imposé au patronat, par ses luttes, que le local syndical soit implanté dans l'usine. Cela n'existe pas encore partout, comme ici chez Renault à Flins. Mais il dépend de l'action de tous les syndiqués pour que ça le soit partout, demain.
Alors que j'étais ingénieur et que ça se faisait pas, mais en 68, j'ai décidé de prendre une carte dans un syndicat et j'ai pas été le seul. On a été plusieurs ingénieurs à faire ce genre de démarche, et alors même que nous étions des commerciaux et que c'était pas du tout évident.
Il y a des malheureux, des gens qui n'ont, c'est pas des malheureux, qui n'ont pas la possibilité intellectuelle ou de se bagarrer pour avoir une augmentation, simplement une augmentation de salaire. J'ai envoyé qui disait, tu vois, moi je fais le même travail que toi, madame, et puis moi, toi tu gagnes autant, moi je gagne autant. Mais je dis, tu l'as réclamé l'augmentation? Ben non, je n'oserais pas. Alors s'il n'y avait pas un délégué qui pourrait réclamer pour ses copains, et ben ce garçon-là, il aurait toujours resté en bas de l'échelle, il n'aurait jamais eu une petite augmentation.
Et oui, donc voilà, c'était donc
une histoire du salariat qui était en 2005, qui avait été inspirée du livre La Nouvelle Question Sociale Voilà, qui faisait une histoire bon, qui commence au 19e siècle. Mais voilà, et donc avec des extraits, qu'on voit, donc on voit la vie à l'usine en, oui, avant oui. 1968, c'est pas facile. Hein,
c'est pas simple.
La hiérarchie.
Ouais. C'est vrai que c'était un monde complètement étriqué, oui, conservateur.
Surtout très disciplinaire. C'est ça qui est étonnant en fait dans, dans cette époque-là. C'est que la génération qui a reconstruit le pays après la guerre était, oui, était extrêmement carré,
presque militaire, quoi.
Très conservatrice en fait.
Absolument. Hein, sexiste.
Et c'est né après 10 ans de pouvoir gaullisme même. Donc c'est vrai que ça ne doit pas être rose quand même.
ce qui est intéressant de remarquer dans cette histoire, si tu veux, c'est que on parle pas d'une chose. On a parlé du monde ouvrier et des étudiants, mais on parle pas de l'administration dans cette période-là. Très peu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les administrateurs, et c'est notamment lié à l'arrivée de Giscard d'Estaing, hein, ça c'est étonnant quand même, c'est que au début des années 70 dans l'administration, en fait, tu rentrais dans l'administration parce que tu ne trouvais pas dans le privé. C'est-à-dire que les salaires étaient beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 1974 pour que, notamment dans tout ce qui est service hospitalier, il y ait un minimum avec des conventions collectives, etc., des reconnaissances de diplômes. C'est-à-dire que toutes ces grilles territoriales, ces statuts n'existaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration a intégré par la suite les réformes et les droits sociaux acquis, mais plusieurs années plus tard. Hein. Alors, c'est pas le cas dans tous les corps. De ce qui s'est passé en mai 68. C'est intéressant parce que ça parle de la neutralité de l'État et en fait, il y a une révolution culturelle et une redéfinition du monde professionnel qui s'agrège et en fait, le pouvoir étatique et tout ce qui est représentant administratif est obligé de l'intégrer. C'est intéressant.
Oui. Mais ceci dit, le statut des cheminots date de bien avant.
Oui. Mais c'est pour ça, c'est une analyse très, très, très schématique, hein, parce qu'il y avait des statuts bien spécifiques auparavant, etc. Quoi.
On m'a dit, alors peut-être que c'est pas vrai, mais j'ai compris que le statut des cheminots avait été donné après la guerre de 1945 pour fait de résistance, en fait. Hein. Donc,
il y avait des choses qui préexistaient avant, en fait, oui. Puisque.
Bien sûr. C'est intéressant de voir.
Attention, c'est lié aussi à un rapport de force qui est lié au monde économique. C'est-à-dire qu'en 1945, les routes et le rail est détruit.
Oui.
Donc, les personnes qui maîtrisent la technicité du chemin de fer sont indispensables dans le cadre de la reconstruction du pays. C'est un levier de pouvoir qui est très important par rapport à.
Oui, tu as raison.
Et les chemins de fer ont toujours été indispensables aussi au pays.
Absolument. Dans le développement. Voilà, c'est
développement. Donc, il y avait un statut particulier.
Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. C'est pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a eu Nuit debout, on a eu les indignés, etc. Donc, il y a à certaines périodes de l'année, les années qui se suivent et qui se ressemblent un petit peu, il y a des poches de résistance, mais qui apparemment ne portent pas leurs fruits. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, en 68, ça a porté ses fruits, finalement, alors, par rapport à aujourd'hui
C'est vraiment un avis comme ça. Hein. Mais 68 arrive à une période de croissance qui est importante. Mais croissance ne veut pas dire forcément qu'on soit bien dans son travail, qu'il n'y ait pas de problème et qu'il n'y ait pas des problèmes de conditions de travail, comme on l'a vu là. Mais il y a quand même cette espèce d'espérance, hein, quand même, d'expansionnisme et aussi un peu, peut-être, je crois que ça s'est senti beaucoup en 68, c'est de ras-le-bol de l'espèce de... c'est-à-dire la mécanisation... l'augmentation des cadences, la rationalisation en fait. Hein. Donc il y avait un slogan en 68, alto cadence infernale. Bon, ça faisait quelques années qu'on attachait les gens à leur tâche et que les gens étaient à rouage, hein, à l'atelier. C'est comme ça que ça se passait, quoi. Donc il y a ça. Il y a deuxièmement la massification de l'enseignement, c'est-à-dire que effectivement 68, c'est des cohortes d'étudiants qui arrivent et qui en plus ont des problèmes parce qu'il n'y a pas assez de locaux et puis parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans l'éducation nationale et puis c'est une génération qui est née hein, juste après la guerre qui a d'autres dans le monde entier, hein, qui a bien sûr d'autres aspirations que simplement métro, boulot, dodo et que cette société de consommation. Donc c'est la grande différence avec aujourd'hui, c'est que bien entendu aujourd'hui on vit une période de décroissance. C'est vrai. En exagérant un peu. Mais
il y a toujours la massification des étudiants.
Alors, tout à fait, mais on est dans un paradoxe où le monde industriel s'éteint, et il y a une désindustrialisation, et on ne le regrette pas. Et où les nouvelles activités, ce qui est appelé à le remplacer, les nouvelles activités économiques, pour le moment, ne profitent pas à tout le monde en fait. Hein. Ouais. Et donc ça pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une massification de l'enseignement toujours, puisqu'on a besoin, soi-disant, d'une économie de la nouvelle, comment on appelle ça, une économie de la connaissance, mais qu'en réalité, l'économie de la connaissance fait qu'aujourd'hui le cadre d'aujourd'hui, c'est l'ouvrier d'hier, quelque part.
Et du partage des savoirs aussi, il y avait aussi pas mal de...
On parle de partage des savoirs.
En 68, les cours se faisaient dans les couloirs, c'était très vivant, enfin, je veux dire, qu'il y a quelque chose qui...
Oui, il y a eu un besoin à la fois de démocratiser l'enseignement, et puis de doter son caractère autoritaire et vertical, dans un sens plus libertaire, en fait. Hein, voilà. Maintenant... Dans les effets néfastes de 68, je vais faire mon Sarkozy 5 minutes.
Ah oui, voilà.
C'est quand même.
On l'attendait.
On a quand même pas mal cassé dessus.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Sarkozy.
Tout à fait. Et dans les effets néfastes, il y en a un, c'est que les entreprises ont repris tout le discours libertaire dès 68 tard. Et donc, ils ont trouvé, par exemple, que le mot autonomie, c'était joli pour qualifier le nouveau cadre aujourd'hui. Et l'autonomie sans protection, par exemple, contre le chômage, c'est pas mal aussi, vous voyez, ou l'autonomie avec un maximum de pression et
autonomie qui arrive sur flexibilité pour le coup.
C'est ça que ça veut dire, tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise a adapté les idéaux de 68 et le marketing, enfin, à sa sauce marketing, pour vendre aux nouveaux travailleurs la créativité, au cadre, en fait, l'autonomie, mais
au cadre de maîtrise.
Voilà, c'est ça, mais ce qui fait qu'effectivement, pour leur vendre aussi qu'ils allaient bosser 50 heures et pas 35 en fait. Hein. Voilà, et pour la réussite de leur entreprise. Donc l'individualisme de 68, on n'en parle pas assez, l'individualisme, l'hédonisme de mai 68, j'ai Sarkozy hein, toujours, mon Sarkozy là, l'individualisme, en fait, c'est la face négative, c'est évidemment le besoin de succès, de réussite dans le milieu professionnel et d'autonomie vis-à-vis de l'État, des corps constitués. Voilà. De 68, il n'y avait pas que des...
Christophe, tu avais une interview?
Je vais essayer de remonter sur quelques idées. Effectivement, il y a, comme disait Daniel Comédie, on était dans une société où on étouffait. Donc il y a eu cette liberté, et cette liberté en fait a été un créneau de l'entreprise moderne d'aujourd'hui à reprendre sur la notion d'autonomie pour en fait toujours introduire la notion de productivité, de flexibilité. De toute façon, c'est clair que ça a été entrepris. Mais je dirais que effectivement, ça a permis de cette liberté en fait a créé une autre forme de rapport de coercition entre le donneur d'ordre, le patronat et les exécutants. Faut pas se leurrer. Et c'est là où on arrive à un problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, il y a énormément de paradoxes. C'est-à-dire que premier paradoxe, vous nous avez donné la liberté, mais grâce à vous, on a la concurrence. Donc ça veut dire le chômage de masse, etc. Donc ces personnes-là qui ont fait ce mouvement-là il y a 50 ans, c'est un peu, on a un peu envie de leur dire, ok, la liberté, mais en fait, vous avez fait ça pour votre gueule, quoi. C'est un peu le ressenti.
Je sens une aigreur générationnelle.
Non, mais c'est une aigreur générationnelle comprenée par beaucoup.
D'enfant gâté, vis-à-vis d'enfant gâté.
Voilà, absolument. Mais c'est un discours très profond. Et d'ailleurs, ça se voit électoralement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont bénéficié, qui sont nés avant les années 70, qui n'ont pas connu le chômage de masse, etc. Hein, moi, j'ai des collègues, et puis, comme tout le monde, hein, ils savent pas ce que c'est que le chômage. Et voilà, ils n'ont pas connu ça, quoi. Tu te entends ça, ils ont 10 ans de plus que toi, t'hallucines. Maintenant, ils n'ont pas connu.
Peut-être un peu plus que 10 ans. Quand même.
Oui, non, mais ils n'ont pas connu. Certains d'entre eux n'ont quasiment pas connu le chômage.
Donc, c'est sûr que si tu fais référence à Romain Goupil et aux interventions, on peut des fois se demander si les 68 ans n'ont pas mal tourné. Certains.
Ils ont tous mal tourné, j'ai l'impression, pour le coup.
Et si tu veux, il y a une véritable cassure générationnelle. C'est-à-dire que, en gros, c'est moi, 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 et moi, moi, moi. Et la conséquence, le lien, etc., qu'il y a derrière, qu'on va laisser aux générations futures, c'est hors sujet. Ça, c'est une caractéristique. Et c'est pas un procès par rapport à cette génération. C'est-à-dire qu'ils ont baigné sur une forte croissance, un pays qui était à reconstruire, hein, qui était suite à une débâcle de guerre mondiale. Ils en ont bénéficié, hein, et ça en induit une certaine forme d'hédonisme, mais aussi un niveau de vie nettement plus conséquent qu'après 1945. Mais le prix aujourd'hui, c'est l'individualisme. Et donc ça a été une stratégie, hein, pour un certain nombre de courants politiques, mais aussi d'industrie, pour intégrer de fait la globalisation. Et aujourd'hui, on a un paradoxe, c'est que les syndicats qui sont nés en mai 68, tout ce qui est commission paritaire, etc., effectivement, ben, ils ont récupéré une part du gâteau, mais aujourd'hui, ils ne défendent pas contre la globalisation et tout ce qui est en train de se passer.
Oui,
c'est
moi,
tout le paradoxe qu'il y a.
Ce que j'ai ressenti d'un point de vue générationnel, là, c'est le grand paradoxe, c'est que on a une génération qui parle de changer le monde, hein, complètement.
Donc,
on a des trotskistes, des maoïstes déchaînés, quoi.
Et tant mieux.
Et d'ailleurs dans le documentaire donc, qu'on n'a pas écouté, il y a un moment, genre dans les années 70-74, au moment de des LIPS, vous savez, ces ouvriers qui reprennent leur entreprise de montres en étant autogestionnaires. Il y a une phrase qui dit on pense encore à adapter l'appareil de production au rêve, c'est-à-dire qu'il y a ce rêve quand même d'une organisation différente. Or le paradoxe, c'est que dans les années 2000 et 2018, alors que finalement les questions qui étaient posées en 68 sont encore plus telles qu'elles étaient posées, hein, par les maoïstes ou les trotskistes, sont évidemment beaucoup plus prégnantes pour nous, puisque effectivement il y a un chômage de masse, effectivement le capitalisme a un côté désastreux pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et bien c'est à ce moment-là qu'on a des 68ards qui ont 50, 60, 60 et aujourd'hui 70 ans, oui. Qui sont parfaitement réac. En fait, et qui au moment où la lutte devient quelque chose de sérieux. Surtout, voilà. Bon, alors on peut toujours dire qu'ils ont vieilli. Enfin, voilà, c'était une. Voilà, ils étaient idéalistes, en fait. C'est ça, j'évoquais. Ouais. Mais maintenant, bon, la crise, en fait, les rappelle au réalisme, quoi.
Ouais.
Voilà,
pas
d'autres.
Non, j'ai quand même, juste avant de passer la petite chanson, j'ai quand même. Moi, je me souviens, parce que je suis le seul parmi trois personnes qui sont ici, autour de cette table, à avoir vécu 68, j'étais tout petit, bien sûr, sur les dos de mon père, et c'est vrai que je n'ai pas de grands souvenirs, pour le coup, parce que j'étais trop petit, mais j'ai eu l'impression de vivre quelque chose de particulier et d'exceptionnel, parce que les gens étaient tous dans la rue, parlaient alors qu'ils ne se connaissaient pas, il y avait une sorte d'ambiance, comme si tout le monde était une grande famille, et ça, c'était quelque chose, moi, qui m'avait émerveillé. Alors, c'était des sentiments que je n'ai plus aujourd'hui, parce que maintenant, chacun vit dans son coin, dans son mouvement, ses trucs. Mais c'était à l'époque quelque chose de particulier. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait quand même la grève générale. Donc, il y a quelque chose qu'il faudrait, à mon avis, reproduire éternellement, pour le coup. Bon, je plaisantais. Donc, on va écouter la petite chanson, merci.
On y va pour Dactylo Rock ?
Oui !
Alors, attention, les gars. 1, 2, 3, 4. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez des vous êtes la plus belle à vous. Vous avez les digri-digri-ding-dactylo-rap. Elles sont les plus parfaites. Elles sont sans avantage du tétoir. Viva Peloula.
Viva Peloula.
Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes enseignante à maternelle, c'est ça?
Oui, tout à fait, en maternelle.
Alors, Blanquer a décidé de couper les CP en deux parties. Qu'est-ce qu'on a pensé?
Je pense que c'est une bonne décision, à condition que ça ne... n'empêche pas les autres classes de fonctionner correctement. Dans l'idée, c'est moi je trouve que c'est bien, parce que je pense que la réduction du nombre d'élèves par classe, c'est aussi là que la réussite des élèves se joue. Maintenant, si c'est mettre des classes à 12 élèves et de faire d'autres à 32, 33 en maternelle, là, c'est là que ça pêche, quoi.
D'accord. Alors, dans d'autres situations, par exemple l'hôpital ou les cheminots, etc., on voit que le gouvernement, c'est libéral depuis, on va dire, 30 ans. Vous pensez qu'il y a une possibilité de changer le monde aujourd'hui ?
Bah, bien sûr, bah, il y a la preuve là, même si c'est...
Donc vous êtes encore, vous avez encore de l'espoir.
Ah bah oui, autrement on ne serait pas là et on ne ferait pas notre boulot si on en avait plus. Ouais, tout à fait.
Est-ce que l'école manque de moyens encore aujourd'hui?
Bah oui, énormément, à tous les niveaux, enseignants, mais aussi les postes. Nous, on voit en maternelle les ASEM, qui sont donc c'est des postes mairie de Paris pour nous. Elles sont aussi et dans la précarité, les postes ne sont pas renouvelés, beaucoup d'absentéisme, de postes pas renouvelés, pas de recrutement. Donc oui, à tous les niveaux, il y a...
Paris, debout, sous les bras. Paris, debout, sous les bras. Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi.
Et oui, c'était quelques bruits de manifestations du 1er mai et des manifestations qui ont précédé. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans les dernières manifestations, surtout la dernière au 1er mai, où effectivement 150 ou 200 personnes jeunes, plutôt jeunes...
1200.
Pardon, excuse-moi, oui, complètement, oui, j'ai... Ouais. Je me suis trompé de centaines. 1200, voilà. 1200 personnes, effectivement, ont attaqué les CRS. Donc, c'était sur le quai de la Râpée. Il faut savoir que maintenant, les façons de en dehors de la désobéissance civile, les manières les plus parlantes, quelque part, c'est un petit peu la violence, apparemment, pour, en tout cas pour ces jeunes-là. Alors, j'ai une position un peu particulière parce que moi, je suis plutôt non-violent, mais je considère quand même que comme il y a violence d'État, la meilleure façon de répondre à une violence d'État, c'est de répondre par une violence aussi. Donc pour le coup,
le gauchiste.
Bah oui, quelque part. D'ailleurs, Poutou a dit la même chose que moi.
Je veux dire, il faut relativiser.
Relativisons, absolument.
Relativisons, mais oui. Je veux dire, en fait, les manifs au départ, c'est effectivement les Black Blocs donc, s'en sont pris au McDo, qu'ils ont... des fenêtres, puis ils ont cramé une ou deux voitures, et puis ils ont tagué tous les slogans de mai 68 qu'ils avaient sur les murs. Bon, je veux dire, ça s'appelle la propagande par le fait. C'est-à-dire que, n'en déplaise donc aux médias traditionnels, enfin, on entend, ou aux gens qui sont effrayés par ce type de violence, ça reste de la violence symbolique dans leur esprit, spectaculaire, et pas plus. Je veux dire, la violence politique telle conçue comme ça... Bon, avec effectivement des CRS qui sont partout, qui ont bouclé tout le quartier, bon, et qui sont pas particulièrement mis en danger, hein, parce que bon, ils sont bien costauds aussi, mais je veux dire, c'est pas un type qui remonte l'esplanade à Nice avec un camion, par exemple, ou quelqu'un qui aux États-Unis ouvre le feu sur n'importe qui. Je veux dire, c'est pas tout à fait le même bilan humain. Et c'est pas tout à fait politiquement la même chose. Donc voilà, je veux dire, ça reste effectivement dans leur état d'esprit une violence spectaculaire qui vise à se montrer, à dénoncer aussi. Et dans cette idée effectivement anarchiste d'une société sans classe et sans hiérarchie, voilà. Et ça reste assez limité. Alors, et l'autre remarque, c'est qu'il y a quelques années, enfin il y a 10 ou 20 ans, on appelait ça les casseurs. Vous savez, les casseurs, ils déboulaient souvent de banlieue, et puis ils faisaient le tour des magasins, ils prenaient le... Ça, aujourd'hui, on ne voit plus ça du tout. Aujourd'hui, on voit des gens, des jeunes de 20-25 ans, ou étudiants, ou anciens étudiants, ou déscolarisés, qui agitent des slogans politiques, et qu'on peut trouver radicaux, mais enfin, ils font de la politique pour eux. Et donc voilà, et donc je veux dire, on ne peut pas présenter éternellement dans les médias, vous avez des casseurs pour le CPE, ce sont des casseurs, vous avez des Black Blocs, ce sont des casseurs, des gens simplement comme des voyous,
qui n'ont
aucune conscience politique.
Qui ne sont pas.
A priori, qui ne le sont pas.
Non, bien sûr.
Mais après tout, on n'en sait rien. Mais oui. Simplement, au moins, ils ont.
Ah non, mais clairement, les Black Blocs, ce n'est pas des casseurs dans le terme délictuel et criminel. C'est des militants politiques qui font des actes délictuels délibérés et symboliques contre le capitalisme.
Absolument,
c'est des anarchistes.
Mais voilà, non, mais c'est clair, quoi. Je veux dire, ils sont pas là pour tuer des gens. Ils sont pas là pour te piquer ton portable dans une manif ou etc. Ils combattent l'État et ses politiques libérales et capitalistes. Voilà, donc je veux dire, faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est un mouvement politique. Maintenant, le problème qui se pose dans cette histoire, c'est que on va l'envoyer forcément. Vous êtes des délinquants. C'est un grand classique. Vous commettez un délit, donc vous êtes
des gangsters,
des gangsters, donc vous êtes que des voyous, etc. Alors qu'en fait, derrière, il y a un message politique qui est très clair. Et c'est là où je dirais que le gros paradoxe qu'il y a, c'est que faire comprendre la violence en étant dans une logique insurrectionnelle, alors que derrière, on n'a pas de programme politique, si ce n'est casser tous les codes sociaux et les règles, et ne pas se traduire en termes électoraux et d'élection, c'est complètement aberrant.
Non mais c'est complètement aberrant. Je suis pas d'accord avec toi.
Mais même si cette stratégie peut être légitimée quelque peu, elle est aberrante dans le sens où elle a pas de finalité productive au niveau politique.
En fait, c'est comme ce que dit la France insoumise. C'est grosso modo, il faut pas faire ça parce que ça fait peur aux gens. Et donc, comme ça fait peur aux gens, et puis ça fait passer les manifestants du 1er mai pour des dangereux anarchistes qui veulent tout brûler. Et donc la finalité politique, c'est peut-être discutable. Mais en tout cas, ça ne fait pas des délinquants.
Rien ne nous dit qu'ils n'ont pas un programme politique. Ça, on n'est pas dans leur groupe pour écouter leurs conversations dans le cadre de débats, etc. Je pense qu'ils ont certainement un débat politique qui n'est peut-être pas.
Non, mais après, leur programme politique, c'est une forme d'autogestion.
Oui, c'est ça.
Et surtout de se soustraire à l'État. Je veux dire, la ZAD, c'est parfaitement le type d'action où ils pourraient se retrouver. Et c'est des expériences sociales. Voilà. Oui, mais il n'y a pas eu de problème dans la ZAD, je veux dire, dans la ZAD elle-même. Il n'y a pas eu de crime, il n'y a pas eu de meurtre.
Bien sûr.
Et voilà. Alors après.
Moi, je voudrais revenir juste sur un truc que tu viens de dire, sur le fait qu'il faut traduire toutes ces choses-là par le vote, puisque nous avons le droit de vote, hein, pour le coup, comme le droit de grève et le droit de manifester.
Pour élire Macron.
Justement, ces gens-là ne sont contre le vote, puisqu'ils pensent à tort ou à raison que le vote c'est un piège à con. Et d'ailleurs, ils n'ont pas complètement tort, puisque en 2005, nous avons tous voté, enfin tous, pas tous, mais en majorité contre l'Europe des capitalistes, et on avait gagné à 55% de voix, je crois, de mémoire.
Le traité a été adopté
parce qu'il est repassé devant le vote au Sénat et à l'Assemblée nationale, je crois, de mémoire.
Bien sûr, tu as totalement raison de dire qu'il y a eu une trahison des élites européennes par rapport aux aspirations des peuples européens et d'un monde nettement plus social et juste. Et un traité qui était complètement inique. Je ne vais pas te dire le contraire.
Donc le vote ne sert à rien pour le coup.
Mais tu comprends pas. Le mécanisme est le suivant, c'est que si tu es dans une violence sans programme politique et élection derrière, ça ne sert à rien parce que derrière, on va te balancer avec la puissance médiatique. Les gens, c'est des délinquants, c'est reculé, il n'y a rien à voir. C'est tout. C'est contre-productif.
Bon. Alors c'est marrant parce que j'interpostrophe Claude parce que normalement c'était 5 minutes le son, mais apparemment il y a eu un petit souci sur le son. Ah oui, voilà. Donc, dans le cadre du son, il y avait également d'autres intervenants, du SNES, etc., des gens, des syndiqués, des syndicalistes. Et c'était extrêmement intéressant. Et puis, il y avait d'autres sons, d'autres slogans, un petit peu comme en 68 avec CRSSX, etc. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, ce soir, je crois que c'est Ruffin qui va faire un truc à la République.
C'est demain soir, excusez-moi.
Demain
à 14h.
14h, autant pour moi.
Opéra, c'est la fête à Macron.
Fête à Macron, c'est ça. Donc, j'avais pas suivi l'histoire pour le coup. Mais donc, c'est effectivement les différentes thématiques, enfin, toutes sortes de formes de résistance apparemment commencent à émerger. Il serait temps pour le coup, voilà. Mais est-ce que ça va apporter. On ne sait pas donc si ça va arriver, comme tu viens de dire, dans les urnes pour le coup. Mais voilà. Donc,
alors, c'est ça le paradoxe, excuse-moi, c'est que aujourd'hui, ce qui a été gagné en mai 68. Je sais que ce que je vais dire va pas plaire, mais malheureusement, je le pense. Ce qui a été gagné en mai 68, notamment le paritarisme lié à la caisse d'assurance maladie, caisse de chômage, offre trop de ressources aux syndicats pour ne pas être en contradiction entre leur propre survie et les intérêts individuels et de groupes au sein du monde du travail. Ce que je veux dire, c'est que les syndicats, ils n'ont pas intérêt aujourd'hui, notamment les principaux syndicats, à ce que ça change et qu'il y ait de nouveau un mai 68 parce qu'ils y ont gagné beaucoup.
Sont en train de beaucoup perdre aussi.
Mais, tout à fait. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs.
On est plus dans un système où l'assurance sociale est complètement
salariée. Mais le problème, c'est que du fait de ce paradoxe, c'est pour ça que et ces cassures générationnelles dont je te parlais, ce qui se passe, si tu veux, c'est que t'es une espèce de nébuleuse de contestation qui n'ont pas de dénominateur commun. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de révolution en France.
Alors moi, je vais m'inscrire en fou contre aussi, cette je proposition. Non, mais on peut répondre. je veux dire, mai 68, c'est fait sans les syndicats, au départ.
Absolument.
Donc, voilà, et c'était... Mais là où je suis peut-être...
Souviens-toi, le mai 68 a démarré à Nanterre avec le ministre de l'Éducation nationale de l'époque qui avait été interapostrophé par Cohn-Bendit.
C'est ça, mais sur une histoire de dortoir de filles.
De dortoir et de filles à la piscine, quoi. Donc c'est un truc hallucinant. Et c'est parti sur un détail insignifiant pour arriver à ce, voilà, pour arriver à une révolution presque, on peut dire.
Ouais. Non, moi j'y vois juste deux choses. C'est que d'une part, ça venait après 10 ans de pouvoir gaulliste, donc les gens étaient un peu fatigués de la tête du locataire de l'Élysée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque Macron, voilà, ça fait un an qu'il est élu, même s'il n'est que le continuateur de d'autres, des politiques qui l'ont précédé. Et donc voilà, donc du coup ça c'est un frein. Le deuxième, c'est que la société en fait est très clivée, entre notamment ceux qui sont exclus, et puis ceux qui sont intégrés. Alors bon, bah oui, effectivement, il y a certains secteurs où on en bave plus que d'autres, mais il y a encore, un individualisme. En fait, c'est une forme de particularisme où finalement toutes les luttes se concentrent autour de son cas particulier, de son corps, de son voilà. Il manque un élément fédérateur des différentes luttes. Je veux dire. D'accord, 20% à l'élection présidentielle pour la France insoumise, c'est pas mal. Enfin, ce n'est que à égalité avec les gens qui ont voté Macron au premier tour et les gens qui ont voté Marine Le Pen. Et donc c'est problématique en fait hein, Alors voilà. Donc effectivement.
En fait, Macron a été élu comme Chirac avec Chirac avait eu 80% contre Le Pen là. Et là, en fait.
Finalement, en Europe, c'est pareil partout finalement. En Europe, il y a une espèce de morcellisation, des forces politiques, des tendances politiques. Et la seule chose qu'on constate, c'est que la base sociale entre guillemets des régimes diminue. C'est-à-dire que les gens qui ont élu Macron, ils étaient que 20% au premier tour. Peut-être que d'ici 2 ans, ou peut-être déjà d'ici 1 an, la base sociale commence à fondre. Il y a peut-être un peu moins de monde. Donc ça c'est l'élément. Maintenant, quelle est la tendance qui peut... est-ce que ça sera une tendance électorale dans 5 ans, ou est-ce que il se passera des choses plus graves auparavant. On n'en sait rien, quoi.
Non, rien, ça c'est vrai.
Tu veux intervenir sur
ça? Non, mais c'est vrai, c'est tout l'intérêt de l'histoire. C'est-à-dire que, est-ce que derrière ces contestations multiples et diverses liées à des politiques libérales, il y aura un dénominateur commun? Est-ce qu'on ne va pas se prendre une grosse vague nationaliste en guise de remerciement d'ici 2-3 ans?
Il y a une remontée des nationalismes dans tous les pays européens.
On sait pourquoi.
On sait pourquoi.
Mais voilà. C'est un truc, c'est en Allemagne. Donc là, on parle souvent du système parlementaire allemand, qui faudrait comme modèle, mais enfin, grosso modo, les Allemands, ce sont les partis allemands sociaux-démocrates et les partis de droite se sont alliés pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de victoire de la gauche au Parlement européen. Donc c'était en 2006. Et donc il y a quand même cette espèce de blocage et de verrouillage qui fait qu'on jusqu'à maintenant on n'est toujours pas parvenu à avoir une vraie force de gauche. Qui soit électoralement gagnant, ni en Espagne, en Grèce oui, mais voilà, on voit ce que ça a donné. Donc ça, c'est vrai que ce verrou-là, si au moins on parvenait à le faire sauter dans les années qui viennent, et je dis pas que ce serait le grand soir après. Hein,
mais, donc vous croyez pas du tout à la convergence des luttes alors a priori? Ça a l'air d'être difficile pour le coup.
D'un point de vue conjoncturel, oui, peut-être, mais je ne sais pas si ça va se produire maintenant ou plus tard. Quoi.
D'accord. Très bien. En fait, cette émission a été préparée par l'ensemble des gens dans cette émission, donc d'assez agents contre le chômage, pour en fait, c'était initiateur pour la fête de mai 68, donc préparée par Fréquence Paris Pluriel. Hein. Voilà. Donc, c'est le samedi 26 mai 2018 au 1 rue de la Solidarité, donc à notre radio ici présentement, dans le 19e à Paris. Voilà. Donc, ça, tu peux nous en parler un peu. Tu connais un peu le programme, Ludo, sur
non, bah, non, y a, non, il y a une projection.
Il y a projection, il y a lancer des pavés et fléchettes. Il y aura à boire et à manger, bien sûr. Et puis, il y aura des débats.
Ah, il y aura surtout des débats, des témoignages.
C'est ça, des témoignages. Donc, venez nombreux parce que c'est important pour notre radio, pour sa visibilité, d'ailleurs, sur l'ensemble du monde du travail et également du militantisme. Et puis, c'est un moment de fête également pour fêter cet événement, ces événements de l'époque qui sont quand même comptés extrêmement marquants dans notre histoire, histoire de la France, bien sûr, au XXe siècle. Si l'émission se termine.
J'aimerais juste faire une annonce, hein, c'est que, mais je crois que Christophe, mieux, c'est qu'il y a le rapport sur le, sur la financiarisation de l'UNEDIC.
Vas-y.
C'est un audit citoyen.
Alors, oui, il y a un groupe d'une quinzaine de personnes qui représentent des étudiants, des militants syndiqués et tout, qui ont essayé de savoir quelle était l'origine, en fait, je vais faire très court, hein, de l'endettement de l'UNEDIC qui est de près de 35 milliards d'euros. Et en fait, ben, c'est devenu une machine à cash sur les marchés financiers. C'est-à-dire que on a créé, du fait du financement, la fusion entre la NPE et donc les ACEDIC, on a créé, on a donné 10% du budget du NUMIDIC à Pôle emploi. Donc ça a créé un trou dans les caisses. Et donc, en fait, on se rend compte que derrière des taux très bas, et ben, les banques et puis les titres aux porteurs, c'est-à-dire des financiers, s'en mettent plein les poches. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce qu'on nous parle de la dette, mais en fait, du fait des obligations budgétaires qui sont liées à ce remboursement, bah, ça crée une spirale sans fin et donc une énorme dette à la fin, hein, quintuplé, je crois, dit le rapport. C'est absolument hallucinant. Et donc, voilà, sur un bien commun, à savoir une assurance pour tous, pour le chômage, avec des montants très faibles, alors que le chômage de masse a fortement augmenté, on arrive à, et que les cotisations n'ont pas forcément
augmenté.
Normalement, ça aurait dû être un équilibre, mais du fait de la financiarisation avec les prédateurs du monde de la finance qui sont passés par là, et bon, on arrive à un trou magnifique.
Voilà. Et du fait aussi du fait que c'est l'UNEDIC, l'assurance unique, qui finance Pôle emploi. Ah. Donc, ce qui, effectivement, provoque le déséquilibre. Mécanique en fait de l'assurance chômage.
D'accord. Tu peux juste nous, parce que tout à l'heure je me suis planté sur la date et l'horaire, etc., de la fête à
Macron, c'est demain.
C'est demain, excusez-moi.
Donc c'est à 14h, c'est à Opéra.
Donc allez-y si vous avez la possibilité d'y aller.
C'est un samedi pour que les gens qui travaillent puissent y aller. Parce qu'il y a ça aussi dans le problème de la convergence des luttes, c'est quand ça se passe en semaine.
Et je rappelle donc juste une petite annonce. Donc je l'ai dit il y a deux minutes, c'est le samedi 26 mai 2018 dans notre radio à Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité dans le 19e. C'est la fête à mai 68, donc venez nombreux. Ce sera très chaleureux et très sympa. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir fait cette émission avec moi. Merci à Claude pour la technique. Cette émission se termine. Je vous remercie, messieurs, dames, de l'avoir écouté et entendu. Bien sûr, restez vigilants et surtout ne lâchez rien. Merci, au revoir.
Bonsoir.
Ciao.
Bonne soirée.
Bonjour.
Vous appartenez au SNES, c'est ça?
Oui, je suis retraité depuis 2006, mais je suis toujours au SNES, oui.
D'accord. Pouvez-vous expliquer votre présence aujourd'hui ici?
Oui, c'est en gros la défense des services publics qui sont sérieusement menacés par la politique gouvernementale.
D'accord.
Que ce soit dans l'éducation, la santé, les transports et j'en passe.
D'accord. Alors vous pensez que passer par ordonnance pour imposer des lois un petit peu cyniques, ça correspond à ce que vous attendiez de Macron et son gouvernement?
Ça ne me surprend pas, disons.
D'accord.
Parce que, disons, on l'a déjà vu à l'œuvre pendant 6 ans quand il n'était pas encore président. Et là, il a plus de frein du tout. Il n'en avait pas beaucoup, mais là, il n'en a plus du tout. Alors, il fait vraiment ce qu'il a envie de faire. Hein, et comme il a réussi à faire passer une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, en tout cas, à sa botte, il peut faire ce qu'il veut. Hein.
Le gouvernement a tenté depuis un certain nombre d'années, que ce soit la gauche socialiste ou même la droite, ainsi que maintenant Macron, de passer des lois un peu libérales. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même réformer la France et aller plutôt vers les 32 heures de temps de travail?
32 heures, c'est une excellente idée, bien sûr, oui. Tout à fait, on tourne le dos, puisqu'on va revenir à la politique de Sarkozy sur les heures supplémentaires, ce qui favorise la non-création d'emplois dans les entreprises, hein, incontestablement. Hein.
Oui. Merci beaucoup, monsieur. Vous présenter?
Oui, bien sûr, je m'appelle Spencer, je suis secrétaire général de la CGT de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis.
D'accord. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Bah comme tous ceux qui sont là, on est privilégiés, on est plein de choses, on est le mot principal de notre belle République, d'après notre président. Donc on est venu l'exprimer tous ensemble que on n'est pas des privilégiés, on est juste de simples travailleurs comme tout le monde qui essayons de faire grandir la France au maximum. Et on en a juste marre d'entendre que qu'on a des avantages. J'aimerais bien savoir quel avantage on a.
On voit que depuis un certain nombre d'années, il y a de moins en moins de vie dans les hôpitaux. Que l'hôpital va très mal finalement.
Ah, il n'y a pas 36 solutions, c'est des moyens économiques qu'on a besoin. Oui. Les fermetures de lits, c'est simple, c'est parce que les ARS, les agences régionales de santé, nous demandent maintenant de faire énormément de chirurgie ambulatoire. On opère les gens dans la journée, on les laisse partir le soir. On veut bien participer à ce projet, mais il faut des moyens, c'est pas possible. On peut pas soigner de la même manière quand on est à Versailles ou quand on est comme moi dans un département extrêmement populaire et qui vit de la plus grande précarité comme le 93.
D'accord. Et vous pensez que tous les services publics sont dans la même, ont les mêmes problèmes que vous ?
Oui, bien sûr, vous le voyez. Les hôpitaux, l'ONDAM nous baisse tout le temps les subventions, que ce soit les territoriaux, que ce soit n'importe quelle fonction publique. Je vous parle en parallèle aussi des cheminots. C'est tous les fondements de la République, c'est le service public même qu'on est en train d'attaquer et moi ça me fait mal au cœur.
Merci monsieur.
Je vous en prie, bon courage.
Merci. Thank you.